Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 27 janvier, 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Ne ratez pas Dimitri Pavlenko dans Les Spécialistes. Il va vous raconter une histoire qui concerne les financiers aux États-Unis intitulée Les Dégénérés. Et puis nous parlerons évidemment dans le journal imprévisible de Verdi, cet extraordinaire compositeur homme politique italien que ce journal sera consacré grâce à Renaud Blanc. Passons maintenant au titre en vous saluant tous et en vous remerciant d'écouter Radio Classique. Mon cher Marc Bourreau, bonjour.
Bonjour
la
Guillaume.
La pollution de l'air dans le métro parisien avoisine celle de la Chine et de l'Inde.
Oui, c'est un constat édifiant de l'association Respire dans un rapport publié ce matin. Les particules fines explosent sous terre et la RATP ne s'en rend pas compte. Seuls 3 capteurs dans la capitale, du matériel mal entretenu, peu performant. L'association dénonce des résultats faussés dont les valeurs peuvent varier du simple au triple. Respire, l'association, a donc passé 10 stations de métro à la loupe et les résultats font froid dans le dos pour son directeur Olivier Blond.
Dans certaines stations, notamment les stations de RER ou les stations les plus profondes et donc moins bien aérés, comme par exemple à Place d'Italie, on atteint des niveaux qui, en extérieur, correspondraient presque 10 fois à un pic de pollution. On est à 500 microgrammes par mètre cube de pollution. C'est l'équivalent de ce qu'on trouve à Pékin ou à New Delhi. Il faut rappeler qu'il y a 4 millions de personnes qui prennent le métro tous les jours à peu près, et il y a des dizaines de milliers de salariés qui restent 8 heures par jour dans ces enceintes. Force est de constater que, malheureusement, la RATP ne fait même pas cet effort-là de mesurer réellement, sérieusement, la pollution de l'air dans le métro.
Olivier Blond, le directeur de l'association Respire, interrogé par Baptiste Gabory. C'est une première en France. 6 ONG mettent l'État en demeure pour stopper les contrôles d'identité discriminatoires par la police. L'existence des contrôles au faciès avait été reconnue par Emmanuel Macron en décembre dernier. Les ONG, dont Amnesty International, menacent de saisir la justice si l'État n'apporte pas de réponse satisfaisante dans les 4 mois qui viennent.
En attendant de trancher, Marc, sur un éventuel reconfinement, l'exécutif apporte au moins une réponse sur sa politique vaccinale.
Et elle concerne, Guillaume, le fameux délai entre les 2 injections du vaccin Pfizer-BioNTech. La haute autorité de santé préconisait de jouer la montre alors que la cadence des livraisons marque le pas. 6 semaines pour que le plus grand nombre profite d'une première dose. Ce sera finalement 28 jours maximum. Le ministre de la Santé s'en tient aux recommandations de Pfizer. Mesure de prudence, salue ce matin l'épidémiologiste Dominique Costagliola.
98% des gens ont eu les 2 doses à 21 jours d'intervalle. On ne sait ce qui se passe que quand on a fait ça. Donc il faut respecter ce sur quoi on a des données. Quand on a fait autre chose, on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi prendre le risque d'avoir des effets délétères pour un bénéfice hypothétique pour quelques semaines? Vous voulez aussi courir le risque collectif que ça crée des mutants qui ne répondent pas au vaccin? L'option « je suis mal vacciné », je ne vois pas pourquoi je la prendrais.
Propos recueillis par Rémi Pfister, et derrière cette question des délais s'en pose une autre. Y aura-t-il des doses pour tout le monde entre les retards de Pfizer et ceux d'AstraZeneca? Le gouvernement table déjà sur un manque à livrer de 13 millions de vaccins d'ici le mois de mars. La solution viendra-t-elle de Sanofi? Le laboratoire va conditionner, lui, le traitement de son concurrent Pfizer pour relancer la cadence du flaconnage dans son usine de Francfort en Allemagne. Début de l'opération en juillet prochain. 100 millions de doses attendues en Europe d'ici la fin de l'année.
Et en attendant d'amplifier sa politique vaccinale, l'exécutif est de nouveau sur le fil, ou en tout cas sur un fil, ce matin.
Et reconfinement total, partiel ou statu quo, fermer les écoles, quid des commerces non essentiels, conseil de défense ce matin. Pour l'Elysée, il est urgent d'attendre d'abord le bilan du couvre-feu à 18h, ensuite les chiffres des hospitalisations, plus de 3000 patients en réanimation, enfin évaluer la progression du variant britannique. Il frappe désormais 10% des malades en Île-de-France, selon l'assistance publique Hôpitaux de Paris.
L'autre paramètre capital, Marc, c'est aussi celui de l'accès.
57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour gérer la crise. Sondage Via Voice pour Libération ce matin. L'exécutif redoute aussi le spectre d'une désobéissance civile à l'image des Pays-Bas. 3 nuits d'émeutes après l'instauration d'un couvre-feu, des voitures brûlées, des magasins pillés, des policiers caillassés. Si la nuit dernière a été relativement calme, l'ambiance reste délétère dans le pays et elle s'explique par plusieurs facteurs, selon l'historien Christophe De Voort.
Ils ont eu beaucoup de recommandations, ils ont eu des fermetures de commerce, d'activités de service, mais il n'y a jamais eu les attestations individuelles et il n'y a jamais eu de couvre-feu. Donc il y a une sorte d'hypersensibilité, mais il y a aussi toute une série de collectifs, de protestations qui se sont mises en place depuis le printemps dernier. Et notamment autour des thèmes « on est en train de tuer l'économie, on est en train de tuer la liberté ». Et tout ça dans une rhétorique très conspirationniste, Donc, il y avait quand même des braises.
Christophe de Bourte avec Camille Schmitt. Le coronavirus à l'étranger, toujours triste record pour le Royaume-Uni. Le pays a franchi la barre funeste des 100 000 victimes et devient le plus endeuillé d'Europe. Plus de 10 000 cas supplémentaires, ça c'est en Allemagne, c'était hier soir. Berlin pourrait fermer son ciel à tous les vols internationaux.
La pandémie bouleverse des habitudes, y compris dans le 7e art.
Ouais, alors que les salles obscures sont privées de public, quels enjeux, quelles mutations de la filière face au contexte sanitaire? Question au cœur de l'événement Paris Images qui se tient en cette semaine. Édition totalement digital cette année, une certitude, les réalisateurs, les acteurs n'ont pas quitté les plateaux. Mais au fait, à quoi ça ressemble un tournage de film ou de série sous l'ère Covid? Le reportage d'Émilie Vallès.
Gestes barrières, prise de température tous les matins, mais aussi réécriture de certaines scènes. Chacun œuvre pour que les tournages continuent, explique Valérie Valero, chef décoratrice pour le cinéma.
On désinfecte les appartements dans lesquels on tourne, il y a moins de gens sur le plateau, il n'y a que l'accessoiriste qui touche aux accessoires. Par exemple, s'il y a une séquence de fête, il faut entre chaque prise faire bien attention, nettoyer chaque verre. Il y a des scènes qui sont réécrites, les gens s'embrassent moins, par exemple.
Autre casse-tête, les lieux de tournage. Pour le film Le Monde d'hier, Valérie doit recréer l'Élysée. Elle avait trouvé le décor parfait, mais le Covid a tout chamboulé.
On n'a pas pu tourner à la préfecture de police, à Rennes, ce qui fait que ça a multiplié les lieux de décor. Ça nous demande plus de travail.
Le film Eiffel avec Romain Duris a lui été tourné pour les deux tiers avant le Covid, mais il a fallu le finir après le premier confinement, ce qui a engendré des coûts supplémentaires, explique Vanessa Van Zuylen, la productrice.
Il y a un référent Covid, bien sûr qu'il faut payer. On rajoute une infirmière pour le make-up et la coiffure. Vous avez 2 à 3 personnes par loge. Là, vous devez être tout seul. Donc, vous passez de 100 000 euros à 300 000 euros de loge. On va dire qu'on est un peu plus d'1 million d'euros de dépassement de Covid. On devait finir vers 23 millions, on sera peut-être à 24.
Et il y a désormais l'incertitude sur la date de sortie du film, prévue initialement en février.
Et il y aura peut-être un jour un long métrage sur l'édition du Vendée Globe 2020-2021. Les héros des mers.
Ça va être dingue l'année prochaine.
Ah oui, les héros des mers attendus au Stade d'Olonne à partir de ce soir, cette nuit, sprint final dans un mouchoir de poche, hein, toujours entre Charlie Dalin, Boris Herman et Lewis Burton, à peine 100 km entre les prétendants au podium. Et nous ferons le point, Guillaume, avec notre spécialiste voile Rémi Pelletier. Ce sera dans le journal de 8h.
Voilà, Nick Mason a 77 ans aujourd'hui. Vous le savez, vous êtes un grand amateur de rock. Tout à l'heure, nous parlerons de Mozart. Le journal imprévisible sera consacré à Verdi. C'est le seul membre permanent de Pink Floyd depuis sa fondation. Les Pink Floyd ont enregistré donc dans Dark Side of the Moon un titre qui s'appelle The Great Gig in the Sky. Ils sont tombés sur une choriste, une chanteuse, en gros, qui passait par là, qui a totalement improvisé quelque chose qui est devenu un des solos vocaux les plus célèbres de l'histoire de la musique rock. Et pour cette performance, elle n'a pas gagné grand-chose. De cette jeune femme qui accompagnait Pink Floyd en improvisant totalement sur ce titre qui a été un des tubes évidemment donc exceptionnel de ce groupe anglais qui a touché, je crois, 100 livres.
C'est 100 ça livres, c'est ça.
100 livres et qui a essayé de récupérer de l'argent après. Tintin, lui ont dit Waters et les autres. Il est 7h38.